C'est un personnage de roman noir, agent secret, escroc, éminence grise, tortionnaire, trafiquant de drogue, le Péruvien Vladimiro Montesinos a accumulé une gigantesque fortune avant d'être rattrapé par la justice et écroué l'an passé. Non sans avoir tenté de passer à travers les mailles du filet en modifiant ses traits grâce à une opération de chirurgie esthétique. L'histoire de Montesinos, le Rasputin péruvien, comme on l'a surnommé, jette une lumière crue sur ces pays d'Amérique du Sud, minés par la corruption et la violence, soumis et manipulés par leurs grands voisins du Nord. Elle éclaire aussi le long règne de celui que les Péruviens appelaient le Chinois, le président d'origine japonaise, Alberto Fujimori. Montesinos a en effet été le conseiller influent et même l'âme damnée du président péruvien. Les deux hommes étaient inséparables. L'un gouvernait d'une main de fer et obtenait d'excellents résultats sur le plan économique. L'autre agissait dans l'ombre, recourant aux pires méthodes pour assurer le pouvoir de son ami et associé. Mais qui était le mentor de ce duo? Qui dirigeait vraiment le pays? Fujimori ou Montesinos? En septembre 2000, c'est le scandale. La diffusion d'une cassette vidéo révèle une partie des activités obscures de Vladimiro Montesinos. Celui-ci s'enfuit. Deux mois plus tard, Alberto Fujimori se réfugie au Japon et démissionne. Et l'on découvre peu à peu l'étendue des exactions perpétrées par les deux complices. Mais qui a réellement fait tomber ce duo infernal et pourquoi Monsieur X se propose de répondre à ces deux questions?
Alberto Fujimori, c'est une sorte d'extraterrestre dans la vie politique péruvienne.
Donc ça veut dire quoi, ça?
Lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle en 1990, cet ingénieur agricole et recteur d'université est un quasi-inconnu. D'origine japonaise de surcroît dans un pays où il n'y a que 10% d'immigrés asiatiques.
Quand même, hein?
Ouais. Mais en outre, en face de lui, il y a un candidat prestigieux, l'écrivain Mario Vargas Llosa.
Ouais, je me souviens que tout le monde donnait ce dernier gagnant.
Bien sûr. Or, première surprise, au premier tour, il talonne Mario Vargas Llosa.
Et au deuxième tour, il gagne.
Très confortablement, oui.
Et sur quel programme, alors?
Il a un slogan, travail, honnêteté, technologie.
Un peu flou, non?
Ça marche. Il faut dire qu'en 1990, la situation du Pérou est catastrophique. L'économie s'effondre, l'inflation atteint des niveaux records et la plus grande partie de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Et il y a encore la corruption généralisée, le choléra et une guerre civile qui ensanglante le pays.
Ah, c'est le fameux sentier lumineux.
Oui, une narco-guérilla d'obédience maoïste. Et aussi le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru. Bref, le Pérou est alors au bord de l'effondrement, la population est lasse, et ce sont justement les classes populaires et la gauche qui ont donné leur voix à Fujimori. D'ailleurs, au cours de sa campagne, Fujimori s'est présenté comme le porte-drapeau des laissés pour compte.
Mm-hmm. Et politiquement, alors?
Fondamentalement, Fujimori est un libéral. Il va très vite le prouver en prenant à contre-pied son électorat populaire. Il inflige en effet au pays un plan de rigueur sans précédent, dont les premières victimes sont naturellement les plus pauvres.
Mmh. Et brièvement, là, en quoi ça a consisté, là, ce plan?
Il a voulu rétablir la vérité des prix et donc supprimer toutes les subventions. Le résultat, ce Fujishock, comme les Péruviens l'ont appelé, ça a été une flambée immédiate de toutes les denrées de base. Je ne vous donnerai qu'un exemple. L'essence a augmenté de 3000%. Mais en revanche, cela a permis de maîtriser l'inflation. Et après une période de récession, le Pérou va connaître une croissance importante.
Oui, mais comment les Péruviens ont accueilli ce traitement de choc, là?
Oh, Fujimori s'y attendait. Il y a bien eu des manifestations de protestation, mais dans l'ensemble, la population a accepté cette cure de rigueur. Et puis, le président péruvien tenait d'une main ferme les rênes du pouvoir. Et il bénéficiait du soutien de l'armée, ce qui est indispensable dans un État d'Amérique latine.
Ouais, surtout dans un pays déchiré par une guerre civile.
Oui, oui. Ouais. D'ailleurs, Fujimori va assigner à l'armée la mission de mettre fin le plus vite possible à cette guerre. Il faut savoir qu'à l'époque, le Sentier Lumineux, qui est le mouvement le plus sanguinaire, contrôle des secteurs entiers du territoire péruvien. Mmh. Les guerriers aussi font la loi et contrôlent en particulier la production de la coca.
La coca, une activité lucrative.
En effet. Et avec l'aide des Américains, le gouvernement péruvien va mener une lutte très active contre les guérillas. En 1992, les chefs du Sentier Lumineux et de Tupac Amaru sont arrêtés.
Pourtant, il y aura plus tard cette spectaculaire prise d'otage à l'ambassade du Japon à Lima. Hein.
En 1996, vous avez tout à fait raison. Ce sera le champ de cygne du Tupac Amaru. Mais on en reparlera peut-être un jour, car l'affaire reste malgré tout très mystérieuse.
Ouais, en tout cas, Fujimori fait là une démonstration de force.
Oui, hein. Oui, c'est lui qui ordonne personnellement l'assaut. Et il posera ostensiblement au milieu des soldats qui ont tué tous les preneurs d'otages.
Le président Rambo, quoi.
Oui, enfin, c'est à peu près ça.
Quoi qu'il en soit, bon, fondamentalement, ses premières années au pouvoir sont plutôt positives.
Ah, ça, c'est incontestable. Sa politique néolibérale donne des résultats. Il privatise, il attire des investissements étrangers, il paye ses dettes, et il est considéré par le Fonds monétaire international comme un bon élève.
Ouais, c'est pas toujours un compliment, ça.
Oui. Ce boom économique ne profite pas à tout le monde. Le travail est précaire et l'économie souterraine ont proliféré. Il y a toujours une bonne moitié de la population qui vit dans la misère. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au cours des années, le régime va se durcir, une véritable dérive autoritaire. Mario Vargas Llosa, l'ancien concurrent de Fujimori, pourra même parler de démocrature.
Démocratie, c'est-à-dire, attendez, une apparence de démocratie, mais en réalité une dictature.
C'est ça. Puis ça commence très tôt, en 1992. Fujimori vient donc de remporter de vrais succès contre les guérillas, mais sur le plan politique et social, il est contesté. Alors, pour faire taire cette opposition et renforcer son pouvoir, il organise un auto-coup d'État.
Un auto-coup d'État, ça veut dire quoi, ça?
Il dissout le Parlement, fait adopter une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs de l'exécutif. Ça n'a pu se faire naturellement qu'avec l'accord de l'armée, ça ce n'est qu'un début. En 1995, après une réélection triomphale, il accroît encore ses pouvoirs et ceux de l'armée. Et alors que la Constitution ne permet pas au chef de l'État de se représenter pour un troisième mandat, Fujimori bricole une loi qui lui donne cette possibilité.
On peut donc parler de pouvoir personnel.
Absolument, il ne fait pas bon s'opposer à sa volonté. Trois juges du tribunal constitutionnel qui ont contesté cette loi ont été purement et simplement limogés.
Mais voyons.
La presse est bâillonnée, les journalistes physiquement menacés, et des opposants sont arrêtés, parfois torturés. Et en 2000, Fujimori ne devra sa réélection qu'à une fraude colossale.
Ouais. Mais comment expliquer alors cette dérive progressive, quoi, c'est la soif du pouvoir?
Certainement. Mais la vraie raison, en tout cas la plus importante, c'est la présence auprès du président péruvien d'un homme, Vladimiro Montesinos, un conseiller tout puissant, le chef des services secrets, numéro 2 du régime dans les faits, et sans doute même le numéro 1.
Ah bon, vous voulez dire que ce Montesinos était peut-être le vrai maître du pays?
Je le pense, en effet.
Alors, parlons de cet homme de l'ombre, alors.
Volontiers. Vous avez raison de parler d'homme de l'ombre, car Montesinos apparaissait très peu en public, à tel point qu'il n'existait pratiquement pas de photo de lui. Autre détail intéressant, ses parents lui ont donné comme prénom Vladimiro Ilitch.
Ah, en hommage à Lénine.
Exactement.
Comme Carlos.
Oui, mais Montesinos, lui, ne deviendra pas un terroriste international, mais une sorte de voleur officiel. Enfin, n'allons pas trop vite. Vladimiro commence sa brillante carrière dans l'armée. Il fait d'abord un stage dans une institution militaire américaine située à Fort Benning.
Il me semble que vous avez déjà évoqué ce Fort Benning.
C'est exact. Fort Benning a vu passer la plupart des militaires d'Amérique latine qui feront tristement parler d'eux plus tard. Les Noriega, Videla, Banzer, etc. Tous ces officiers putschistes et tortionnaires qui feront régner la terreur dans leur pays.
Ouais. Vous insinuez que c'est à Fort Benning là, qu'ils ont appris ces méthodes?
C'est certain, mais enfin passons. Après Fort Benning, Montesinos intègre l'école militaire péruvienne. Et il en sort avec le grade de capitaine. Mais déjà, il a de curieuses habitudes.
Quoi?
Eh bien, le jeune Montesinos fait des fiches.
Des fiches sur qui ou sur quoi?
Des fiches sur ses camarades, ses profs.
Ah, curieuse mentalité.
Ouais. Et Montesinos ne dissimule pas que son héros, l'homme qu'il admire par-dessus tout, c'est Joseph Fouché.
Le ministre de la police de Napoléon, ce type a une réelle vocation.
Et il réussira puisqu'il finira par être le premier flic du Pérou. Enfin, revenons à l'histoire de ses... Il est donc capitaine dans les années 60, un officier plutôt brillant qui affiche très vite ses ambitions. Une carrière militaire classique ne l'intéresse pas.
Que veut-il alors?
C'est le pouvoir qu'il gagne.
Oui, la politique. Quoi.
Oui, mais pas au premier plan quand même. Pas sous le feu des projecteurs. Montesinos est un manipulateur d'hommes. Ce qu'il aime, c'est la réalité du pouvoir, pas ses apparences. Et il commence tôt. Dans les années 60 et 70, le Pérou est alors dirigé par une junte militaire d'obédience marxiste. Montesinos réussit à devenir l'aide de camp du premier ministre de l'époque, Eduardo Jarrín. Et déjà, on dit que c'est lui qui inspire la plupart des décisions gouvernementales.
Il est allé vite en besogne, hein?
En effet. Mais ça ne lui suffit pas. Au milieu des années 70, il participe à un putsch d'officiers qui veulent mettre fin à l'expérience marxiste.
Il trahit donc son patron.
Mais il obéit à ses vrais maîtres. Car depuis sa formation à Fort Benning, Vladimiro Montesinos est un homme des Américains.
Dans un livre paru très récemment, La Citadelle endormie de Jean Guinel, j'ai trouvé quelques détails sur cette école de Fort Benning, la School of America. Le journaliste relève d'abord qu'un des professeurs de cette école très spéciale n'était autre que le général Osares, qui s'est vanté il n'y a pas si longtemps d'avoir pratiqué la torture en Algérie. Guinel écrit ensuite. L'US Army se défend toutefois d'avoir monté, avec la School of America, une école de formation à la torture, aux opérations spéciales dirigées contre les populations civiles indociles et à la prise de pouvoir par des militaires sud-américains inféodés aux États-Unis, un centre de formation de la CIA pour tout dire. Les polémiques ne cessant pourtant pas, l'école a été soumise à nombre d'enquêtes, à tel point que le Pentagone a dû admettre en 1996 que 7 des manuels d'instruction remis aux stagiaires et rédigés en espagnol leur indiquaient les différentes méthodes de coercition à exercer contre les guérilleros, dont la torture et l'assassinat. Le livre de Jean Guinel est paru en 2002 chez Fayard.
Le putsch auquel a participé Montesinos, c'est un échec, un demi-échec plutôt. Car moins d'un mois après, le président sera renversé. Et les nouveaux maîtres du pays mettront fin à l'expérience marxiste.
Quelles conséquences, là, pour Montesinos?
On se méfie de lui. Et il est muté dans un poste frontière, loin de la capitale. Mais éloigné des centres du pouvoir, il ne tient pas en place. Et peu de temps après, il part pour les États-Unis. À noter que le voyage est payé par les Américains. Que Montesinos, pour s'octroyer cette permission, n'a pas hésité à faire de fausses signatures.
Eh bien, et alors, quel est l'objet de ce voyage?
Le Pérou, même s'il avait rompu avec le marxisme, gardait de très bonnes relations avec l'URSS. Et ça intéressait beaucoup les Américains.
Ah oui, alors Montesinos possédait de précieuses informations sur les rapports des Péruviens avec les Soviétiques.
Bien entendu. Il connaissait notamment dans le détail le secret des livraisons d'armes soviétiques à son pays. Mais quand il revient au Pérou, on l'accuse d'avoir déserté et falsifié les papiers. Il est radié de l'armée et condamné à 5 ans de prison. Toutefois, il tombe malade. Et après un an de détention, il est libéré. Il en profite aussitôt pour fuir le Pérou.
Il ne se sent pas très à l'aise quand même. Là, où va-t-il?
En Argentine.
Où les militaires sont au pouvoir.
Ce n'est pas un hasard. Montesinos doit se trouver là-bas comme un poisson dans l'eau.
Ouais. Mais que fait-il en Argentine alors?
Très curieusement, il fait des études de droit. Oui. Et Montesinos veut devenir avocat.
Il réussit?
Oui, il obtient très rapidement son doctorat en droit. La suite est très instructive. L'avocat Montesinos va se spécialiser dans la défense des trafiquants de drogue. Des Colombiens, essentiellement. Ça lui permet de rencontrer les principaux chefs du trafic.
Oui, Escobar et les autres.
Bien sûr.
Et j'imagine que ça peut être très fructueux, ça.
Oui, Montesinos commence à construire sa fortune, ainsi. Mais ce n'est pas tout. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Montesinos est un homme des Américains.
De la CIA, vous voulez dire?
Bon, c'était sous-entendu. Donc, Montesinos se livre un double jeu. D'une part, il conseille les trafiquants et assure leur défense. Et de l'autre, il renseigne les Américains sur leurs activités.
Et il touche des deux côtés.
Ça, c'est certain. Ouais.
Mais, d'après ce que vous pouvez savoir, est-ce qu'il garde des informations pour lui?
Il doit garder la confiance des parrains de la drogue. Par conséquent, il ne peut pas tout dire. Mais nous en avons déjà parlé, la CIA n'a pas toujours eu une attitude très claire avec le trafic de drogue.
Elle l'a même parfois favorisé.
Oui, les services secrets, quels qu'ils soient, ne rechignent jamais à remplir leur caisse noire. Mais on va reparler de la CIA, je vous le promets, car elle est au cœur de toute cette histoire. Au début des années 80, Montesinos revient au Pérou. Il est blanchi. Tellement blanchi qu'il parvient à entrer dans le service de renseignement péruvien, le SIN, S-I-N.
Tout en restant avocat?
Oui.
Et dites-moi, ça aussi, ce n'est pas banal,
Je vous le fais pas dire. Et Montesinos, qui est un type malin, grimpe très rapidement les échelons à l'intérieur de ce service.
Oui, déjà dit que c'était depuis longtemps un spécialiste du fichage.
Oui, il n'a pas cessé, vous l'imaginez bien. Toute sa vie, il a constitué des dossiers. Ça explique pourquoi il sera pratiquement inattaquable, malgré les méfaits qu'il va accumuler. Mais la chance de sa vie, si je puis dire, c'est sa rencontre avec Alberto Fujimori. Le futur président péruvien est alors accusé de fraude fiscale. Montesinos devient son avocat et règle l'affaire au mieux.
Il a donc gagné la confiance de Fujimori.
Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui a convaincu Fujimori de se présenter à l'élection présidentielle et qui a pris en main sa carrière politique. Et là, il faut reconnaître son talent. Car faire élire ce japonais immigré totalement inconnu, c'était quand même pas une mince affaire. J'ajoute que c'est aussi Montesinos qui va réunir une partie des fonds nécessaires à la campagne électorale.
Et où les trouve-t-il?
Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à lui refuser.
Les fameux dossiers qu'il a...
Oui. Et il a sollicité aussi ses amis trafiquants de drogue. Pablo Escobar, le patron colombien du cartel de Medellín, a contribué pour 1 million de dollars.
Donc, rien.
Un secret, évidemment.
Fujimori élu va naturellement récompenser Montesinos.
C'est évident. Il devient aussitôt son conseiller pour la sécurité et prend la tête du CIN.
Ouais, le CIN, c'est les services secrets. Hein.
Ouais. Et de fait, il est aussi le véritable chef des armées.
C'est une puissance considérable.
Hein. Oui, Montesinos est un véritable homme fort du pays, avant même Fujimori. Mais il n'y a pas de compétition entre les deux hommes. Montesinos n'aime rien tant que l'ombre.
Ouais, vous avez dit, vous avez déjà dit ça, mais... Donc il laisse Fujimori parler.
Et pendant ce temps-là, lui, il continue de s'enrichir.
Ah oui, pas seulement gouverner, il s'enrichit. Vous avez dit qu'il a constitué des dossiers sur tout le monde, hein, c'est ça. Et sur Fujimori, alors?
Bon, écoutez, il m'étonnerait qu'il ait agi autrement avec son ami le président. Après tout, l'avenir n'est jamais sûr. Et Montesinos était bien placé pour savoir qu'Alberto Fujimori n'était pas un parangon de vertu.
Ouais. Donc il tenait Fujimori?
D'autant mieux qu'il n'a jamais manqué d'associer le président péruvien aux turpitudes et aux actions illégales qu'il a perpétrées.
Alors justement, là, ces turpitudes... attends, une question avant. Pendant toutes ces années, là, au cours desquelles Montesinos travaille la main dans la main avec Fujimori, est-ce qu'il continue d'être en relation avec les Américains?
Ah, forcément. Quand on a commencé, il est difficile d'arrêter. Et puis, franchement, Montesinos n'avait pas envie de rompre. L'agence américaine le rétribuait fort bien. Certains de vos confrères ont affirmé qu'il touchait $1 million par an.
Ce qui rendait des services appréciés. Alors.
Oui, enfin, encore une fois, n'allons pas trop vite. J'y reviendrai plus tard.
Est-ce que... Fujimori savait que Montesinos était un agent de la CIA.
Absolument. Et ça ne le gênait pas, outre mesure.
Pourquoi? Parce qu'il était pro-américain.
Et que la CIA l'aidait à lutter contre les guérillas. C'est d'ailleurs dans ce domaine que Montesinos va d'abord s'illustrer. C'est lui qui coordonne la lutte contre le terrorisme. Un terrorisme particulièrement sanglant, puisqu'il a provoqué la mort de milliers de personnes. Mais... là où le bât blesse, c'est que sous prétexte de lutter contre les guérillas d'extrême-gauche, Montesinos va constituer de véritables escadrons de la mort.
Comme au Brésil ou en Argentine.
Oui, des groupes paramilitaires qui vont commettre de nombreux assassinats.
Des assassinats d'opposants, j'ai
bien sûr. Oui. En 92 ou 93, 9 étudiants et l'un de leurs professeurs sont sommairement exécutés à l'université de la Cantuta. Ils ne seront pas les seuls civils à être victimes de ces escadrons de la mort.
Est-ce que Montesinos est soupçonné?
Oui. Son nom et celui d'autres officiers sont prononcés par des organisations de défense des droits de l'homme. Mais Montesinos et Fujimori ont bien verrouillé le système. Le poste hautement stratégique de procureur général est occupé par une femme qui n'a rien à refuser à Montesinos. Et pendant près de 10 ans, ce dernier ne sera jamais inquiété, alors même que les charges contre lui vont s'accumuler.
Et par exemple,
en 1996... un journal mexicain accuse Fujimori, son âme damnée Montesinos, d'avoir partagé avec la mafia aztèque. La même année, lors de son procès à Lima, un trafiquant de drogue péruvien fait des déclarations très embarrassantes pour Montesinos. Il affirme que pendant un an, il a versé $50,000 par mois au chef des services secrets.
En échange de quoi?
Montesinos l'avertissait à l'avance des opérations de police programmées contre les narcotrafiquants.
Je veux bien vous croire, mais... pourquoi ce trafiquant s'est-il soudain mis à parler?
Pour se venger. On lui aurait promis de le libérer, promesse qui n'a pas été tenue. En outre, il avait une dent contre le chef des services péruviens. Montesinos avait exigé que le montant de sa prime mensuelle passe à $100,000.
Gourmand, hein. Ouais.
Le trafiquant a refusé. Montesinos a fait dynamiter son aérodrome clandestin et l'a obligé à fuir en Colombie.
Ouais. Et là encore, Montesinos n'a pas été poursuivi?
Non. Non. Et pourtant, l'année suivante, des accusations encore plus graves vont être portées contre lui.
En septembre 2000, le Washington Post a consacré un long article au chef des services secrets péruviens. La journaliste Karen De Jong y analyse les rapports entre Montesinos et la CIA. Je cite. Interrogée à propos de Montesinos, la CIA répétait sans cesse que sa politique était de ne pas communiquer sur des sujets relatifs aux renseignements. Mais un officiel du renseignement racontait que c'était le travail de l'agence de maintenir des liens étroits avec les chefs des différents services secrets étrangers. Cet officiel se référait à un rapport de la CIA au Congrès US, dans lequel il était noté que l'agence faisait, de façon générale, soigneusement état des allégations sur les abus en matière de droits de l'homme et prenait une décision délibérée en mettant en balance, d'un côté, la nature et la gravité de ces abus et de l'autre, la valeur potentielle des renseignements obtenus si l'on poursuivait les relations avec le Péruvien. Et plus loin, la journaliste américaine écrit « En octobre 1996, deux sénateurs démocrates écrivirent au directeur de la CIA, John Deutsch, à propos de Montesinos pour lui rappeler que les nouvelles directives de l'agence interdisaient tout lien de renseignement avec lui. Les interrogations se multipliant sur le sujet, l'administration organisa une réunion entre toutes les agences pour revoir les liens avec Montesinos. La CIA régna sur l'Assemblée en insistant sur les services rendus par Montesinos. Le fait qu'il n'existait pas de preuves évidentes de son application dans les violations des droits de l'homme et que c'était devenu une valeur inestimable dans la lutte contre les narcotrafiquants.
En 1997, une affaire fait vraiment grand bruit au Pérou. Une jeune femme, sous-officier des renseignements péruviens, affirme publiquement avoir été torturée par 4 de ses supérieurs.
Et pour quel motif ?
Cette jeune femme, Léonore Larroas, aurait révélé à un journaliste de la télévision l'existence d'un plan secret destiné à museler la presse.
Un plan qui existait réellement ?
Bien évidemment. Il prévoyait des mesures d'intimidation contre les journalistes et si ça ne suffisait pas, leur élimination physique. D'autre part, cette jeune femme a aussi déclaré qu'il existait dans le pays un gigantesque système d'espionnage visant la presse, les magistrats, les politiciens et les syndicalistes.
Dites-moi, cette femme a pris des risques en parlant.
Certainement. Mais Léonore Larroas espérait ainsi sauver sa vie. Quelque temps avant, l'une de ses collègues avait été retrouvée morte près de son domicile. Elle avait été décapitée, ses pieds avaient été sectionnés. Elle aussi savait beaucoup de choses. Léonore a donc pris la décision de parler pour éviter de connaître le sort de sa collègue.
Alors, dans cette histoire tragique, c'était donc directement les services secrets et leur patron qui étaient compromis.
Mais encore une fois, Montesinos, soutenu à fond par Fujimori, s'en sort. Malgré les manifestations de rue, malgré les démissions de plusieurs ministres indignés par les méthodes employées par le président et son complice. Des ministres qui, il faut le remarquer, sont aussitôt remplacés par des militaires.
Donc la militarisation du régime s'accroît.
Fortement, oui. Désormais, on ne peut plus parler de réelle démocratie au Pérou. Les signes importants pour la première fois, Washington commence à prendre ses distances. À la Maison-Blanche, on se dit préoccupé par la manière obscure dont le Pérou est gouverné.
Oh, c'est pas une condamnation excessivement violente.
Non, non. Et rien ne va pratiquement changer, au moins en apparence, jusqu'à l'année 2000.
Ce qui signifie dans les faits que Washington continue de soutenir Fujimori.
Oui.
Et vous avez dit quand même en apparence.
Et j'ai employé l'expression à bon escient. En fait, dans l'entourage de Bill Clinton, on est de plus en plus préoccupé par la dérive autoritaire du président péruvien et par les magouilles de Montesinos. Et je peux vous le dire tout de suite, on songe déjà à la façon dont on pourra se débarrasser d'eux. Mais encore un petit peu de patience, monsieur Penaud. Et je vous raconterai comment ça s'est réellement passé et surtout pourquoi.
Ouais, d'accord, patientons, puisque c'est notre bon vouloir.
Je vous en remercie. En l'an 2000, donc, les événements se précipitent de façon très curieuse. Et tout montre que quelqu'un s'est décidé à éliminer Montesinos. Ça commence au mois d'août, par la révélation d'une affaire de trafic d'armes et des milliers de fusils d'assaut AK-47.
Des Kalachnikov, hein,
c'est ça? Oui, donc ces fusils achetés par l'armée péruvienne à la Jordanie ont été en fait livrés aux FARC colombiennes.
La guérilla colombienne.
Une guérilla particulièrement sanguinaire qui est intimement liée aux narcotrafiquants. L'affaire fait grand bruit. Et une nouvelle fois, Montesinos s'est montré du doigt. Car une affaire d'une telle ampleur n'a pu être réalisée qu'avec son accord.
Et je pense qu'à l'occasion, il a dû toucher sa dîme.
Naturellement. Peu de temps après, au mois de septembre, une cassette vidéo est diffusée à la télévision péruvienne. On y voit Montesinos, en personne, corrompre un député de l'opposition. Le chef des services secrets achète son vote.
Ce qui est étonnant, c'est que la scène ait été filmée.
C'est juste, mais on va découvrir à cette occasion que Montesinos filme systématiquement tous les gens qui viennent le solliciter dans son bureau. Il a accumulé, on l'apprendra plus tard, des milliers d'enregistrements clandestins où l'on voit des dirigeants, des hommes politiques, des chefs d'entreprise recevoir le prix de la corruption.
Il a donc piégé la plupart des décideurs du pays ?
Oui. D'autres cassettes enregistrées par les services secrets montrent de façon très claire les goûts sexuels de quelques autres de ces hommes.
Alors, Montesinos a monté une énorme vidéothèque qui lui permet de faire chanter tous ces gens qu'il a filmés à leur insu.
Exactement, c'est comme ça qu'il tient le pays.
Avec l'assentiment du président Fujimori ?
C'est très probable.
Mais comment cette première cassette vidéo est-elle parvenue à la télévision ?
Bonne question. La version officielle est qu'un gradé des services secrets aurait trahi Montesinos.
Mais vous n'y croyez pas ?
Non, je suis persuadé que cette fuite a été programmée par ceux qui voulaient se débarrasser de lui.
Bon. La diffusion de cette cassette doit faire scandale, hein ?
Oui, et cette fois, Montesinos s'est pris à son propre piège. Car on le voit à l'image, corrompre personnellement ce député.
Alors que se passe-t-il ?
Il comprend très vite que cette fois, il ne pourra pas échapper à la justice et il fuit à l'étranger. C'est le début d'une cavale qui va durer plusieurs mois. Mais l'entreprise de démolition continue pendant sa fuite. On apprend ainsi que Montesinos a dissimulé en Suisse et dans quelques paradis fiscaux des centaines de millions de dollars.
Alors, comment le président Fujimori réagit-il ?
Ces révélations sont tellement accablantes qu'il est obligé de lâcher son homme de confiance. Et dans un premier temps, il dirige lui-même les opérations destinées à rechercher Montesinos. Mais bien vite, il comprend qu'il va lui être impossible de rester au pouvoir. Il annonce donc de prochaines élections. Des élections auxquelles il affirme qu'il ne se présentera pas. Puis, à l'occasion d'un voyage à l'étranger, 2 mois seulement après Montesinos, il fuit, lui aussi.
Oui, je me souviens, il trouve refuge au Japon. Hein.
Qui le reconnaîtra comme un citoyen japonais. Ce qui permet à Fujimori d'échapper à une possible demande d'extradition. J'ajoute que Fujimori n'est pas parti les mains vides. Avant de fuir, il a emporté une partie de la vidéothèque de Montesinos.
Attendez, je comprends pas, parce que Montesinos, lui, ne s'était pas sauvé avec ses précieuses cassettes ?
Non, il n'en avait vraisemblablement pas eu le temps.
Alors revenons à la cavale, Montesinos.
Il semble qu'il soit d'abord allé à Panama, où il aurait reçu l'assurance d'être accueilli et protégé. Il n'a fait nul doute que ses amis de la CIA lui avaient préparé cette retraite. Mais les autorités de Panama, effrayées par tout ce qu'on racontait sur Montesinos, ont fait machine arrière. L'ancien chef des services secrets a alors navigué dans plusieurs îles des Caraïbes. Puis il a fini par se réfugier au Venezuela.
Oui, on en a parlé récemment.
Oui, il se trouve que le président vénézuélien, Hugo Chavez, l'avait autrefois connu. Il a eu la faiblesse de l'accueillir quelques mois. Sous un faux nom, il s'est fait refaire le visage. Il pouvait alors nourrir l'espoir de vivre une retraite dorée. Après tout, même si une partie de ses comptes numérotés avait été saisie, il lui restait assez d'argent. Mais Chavez, lui aussi, a fini par le lâcher.
Et Vladimiro Montesinos a été extradé vers son pays.
C'est exact, en juin 2001, je crois. Entre-temps, au Pérou, le grand déballage avait commencé. Les Vladivideos, comme on les a appelés...
Vladivideos.
Ouais, on fait les beaux soirs de la télévision péruvienne.
Ont-elles tout été diffusées ?
Bien sûr que non. Il n'empêche que grâce à ces cassettes, plus de 180 personnes, dont plusieurs ministres et militaires de haut rang, ont été mises en examen.
Donc pour vous, je résume, l'élimination de Montesinos a été méticuleusement préparée.
Oui, je vous explique pourquoi.
Ah, quand même.
Montesinos, je vous l'ai dit, jouait sur les deux tableaux depuis très longtemps. En principe, il collaborait avec les Américains dans leur lutte contre les narcotrafiquants. Mais contre rétribution, il informait aussi ces derniers des actions qui allaient être menées contre eux. Toutefois, et pendant très longtemps, les Américains, qui étaient parfaitement au courant, ont préféré fermer les yeux.
Mais pour quelle raison ?
Ils jugeaient, non sans raison, que le solde était positif.
Ah oui, c'est-à-dire que grâce à Montesinos, ils obtenaient des résultats,
c'est ça. D'autre part, la CIA lui faisait confiance. Mais une autre agence américaine, la DEA, ne partageait pas tout à fait cet avis.
La DEA, c'est l'agence chargée de lutter contre le trafic de drogue, c'est
ça ? Oui, la Drug Enforcement Agency. Les dirigeants de cette agence pensaient, à juste titre, que Montesinos était un homme dangereux et que sa compromission avec les narcotrafiquants risquait un jour ou l'autre d'éclabousser les États-Unis. En outre, et c'est encore plus grave, Montesinos et la CIA étaient mêlés à une opération qui pouvait provoquer un beau scandale si elle était rendue publique.
De quoi s'agissait-il, hein ?
La CIA avait conclu un accord avec Montesinos, un accord qui permettait aux Américains d'abattre sans sommation les avions des trafiquants de drogue qui survolaient le territoire péruvien.
Alors, au parfait mépris des lois internationales.
Évidemment. Alors les gens de la DEA ont décidé d'agir et de se débarrasser de Montesinos.
Oui, en révélant ces turpitudes, enfin quelques-unes de ces turpitudes.
Oui. Et l'origine de la chute de Montesinos se trouve là, dans ce conflit entre la CIA et la DEA.
Dans le livre que j'ai déjà cité, La citadelle endormie, le journaliste Jean Guinel évoque cet accord clandestin passé entre les Américains et Montesinos. Un accord qui permettait aux agents de la lutte anti-drogue d'abattre les avions des narcotrafiquants. Mais il ne parle pas d'un éventuel conflit entre la DEA et la CIA. D'autre part, selon une autre version, la chute de Fujimori et de Montesinos aurait été provoquée par la hiérarchie militaire péruvienne avec la bénédiction de Washington. En tout cas, un mystère demeure. Qui a bien pu dérober la cassette dont la diffusion a tout déclenché ? À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et même des programmes plus anciens.